Sur quoi porte aujourd'hui le dialogue entre l'Église catholique et le judaïsme? Et en particulier, est-ce qu'il existe encore, je dirais, des pierres d'achoppement, des contentieux?
Étienne, quand je vais laisser, si vous le permettez, Monseigneur Corr, qui, comme moi, fait partie de ce groupe de dialogue judéo-catholique, répondre à votre question. Je compléterai peut-être après. Si.
Le thème le plus principal que nous avons traité, c'est l'image de l'étranger.
L'autre.
L'autre. De voir aussi une contribution pour résoudre le problème avec les relations des étrangers. Mais c'est fait par cette commission judéo-catholique romaine. Et le fondement de cette étude est certainement l'Ancien Testament. Comment dans l'Ancien Testament ou la tradition rabbinique, on voit l'autre. Ça, c'était la chose principale. La commission a commencé avec une déclaration contre l'antisémitisme. C'était en 1942, je crois. Oui. Et après une déclaration de la conférence des évêques sur la situation de l'Église en Suisse pendant la guerre, mais la déclaration était préparée par ces commissions.
Madame Pulfa, c'est pas moi qui dirige, hein.
Madame Pulfa, je voudrais peut-être continuer dans...
C'est là pour Ayon.
Je voudrais ajouter un mot à la question de monsieur. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en ce qui concerne le dialogue. Et je pense que l'Église, à partir du moment, je dirais que c'est tout à l'heure, où elle a reconnu que Israël est Israël et ne se connaissait pas substitué à l'identité d'Israël, et a beaucoup à faire pour se redéfinir elle-même. Car si l'Église n'est plus Israël, ou l'Israël qu'elle voulait être, de quel Israël s'agit-il ? Et donc il y a ici un travail de redéfinition de l'Église dans ces termes elle-même qui est très important parce que pour qu'il n'y ait pas de conflit de fraternité. Or, le conflit entre Israël et l'Église était un conflit de proximité. Et il y a donc tout un travail au sein de l'Église d'une part, mais au sein des communautés juives, de la théologie juive, parce que nous ne disposons pas encore, nous juifs, d'une théologie positive du christianisme. Et on a encore beaucoup de travail pour comprendre, pour approfondir et pour admettre dans nos termes ce que l'Église a à apporter à l'humanité dans sa spécificité. Vous savez, l'Église est partie du complexe du second premier, c'est le second qui a voulu devenir premier en se fondant comme origine, donc ça crée des violences. Mais nous avons, nous, juifs, un autre problème, c'est que nous sommes les premiers et on risque de sombrer dans l'orgueil du premier qui n'a rien à apprendre du second. Donc il y a énormément de travail à faire de part et d'autre et la route est longue.
Si vous me permettez, si je peux enchaîner quelques remarques, je suis très sensible à ce que vient de dire M. le Cordoba et c'est à mon sens des paroles très, très profondes et auxquelles je souscris pour ma part sans réserve. Mais il faut bien comprendre la singulière histoire de millénaires. Et cela peut expliquer beaucoup de choses. C'est que le christianisme, dans son apparition, c'est une affaire juive. Et donc, la connaissance, le débat, car il y a un débat, et une contradiction, un conflit même, un conflit à l'intérieur d'une connaissance d'identité juive, religieuse, commune de la part de tous ceux qui se disent ou que les païens religieux mais chrétiens, c'est-à-dire messianiques. Autrement dit, c'est un débat interne sur l'espérance juive est-elle déjà accomplie et qu'est-ce que cela veut dire. Et le conflit tout à fait fondamental auquel il n'y a pas de réponse. Plutôt, nous pouvons convenir, je crois sans offense, les uns pour les autres, que seule la fin de l'histoire nous permettra de savoir la clé du conflit. Mais ceci étant admis, il reste que cette contradiction laisse entier tout ce qu'il y a en commun et la manière de gérer cette contradiction. Ça, c'est la première phase, celle dont témoignent notamment les Écritures, et qui est peut-être celle des premiers siècles, des premiers, deuxièmes siècles de l'ère chrétienne. Et puis, il y a eu des périodes successives où les populations païennes ont été baptisées et sont entrées dans l'Alliance selon la perspective chrétienne, participant, voulant participer aussi à ce même héritage de la révélation. Et la conséquence globale, même pour la position des Juifs dans le monde, elle est incalculable. Ne serait-ce que matériellement, par le fait que la Bible, la Torah, est tenue pour un livre sacré dans sa langue originale, la parole de Dieu, mais qu'elle a été traduite et diffusée dans toutes les nations du monde pendant tous les siècles. Ce qui fait qu'au fond de l'Asie, où jamais on a vu un Juif, depuis des siècles, pourtant les populations dans leur langue parlent des Juifs et se font des idées des Juifs à travers les récits de la Bible et les commentaires que l'on fait à ce propos. Donc l'universalisation du judaïsme s'est faite comme en dépit de la volonté propre et de la situation concrète du judaïsme. Et donc là, tout un entrelac de causes et d'effets considérables. La suite, c'est que l'Occident est devenu majoritairement et institutionnellement et exclusivement chrétien, et que du coup, le conflit qu'on pourrait appeler juif intérieur au judaïsme s'est traduit par le juif était par excellence étranger, inassimilable, l'autre, et l'autre à l'intérieur du semblable. Dans des sociétés qui ne toléraient pas socialement et politiquement la différence. Ne nous étonnons pas de ces manquer de sens historique, de voir comment, par exemple, pour dirimer le conflit des guerres de religion entre la Réforme et le catholicisme, le principe qui a mis la paix en Allemagne, dans les Allemagnes, ça a été cuius regio, eius religio. Cuius regio, ça ne veut pas dire selon la région, mais selon le roi, selon le prince qui gouverne. Telle doit être la religion des sujets. Ceci s'appliquait pour dirimer ce qui sera le canton, je ne parle pas pour la Suisse, je parle pour les Allemagnes et pour les autres pays. Un prince catholique doit correspondre à une population catholique, un prince protestant doit correspondre à une population protestante. Que viennent faire les Juifs là-dedans? Ils ne sont ni l'un ni l'autre, ils sont étrangers. Et le conflit religieux du début, qui persiste, et la querelle, a été transformé en un phénomène classique de bouc émissaire. Ce qui a donné toutes les horreurs, les excès, les persécutions, les expulsions et toutes sortes d'autres accusations plus ou moins fantasques. Et les élaborations d'accusations et de théories. Le travail de Vatican II a été un travail de vérité, c'est-à-dire démêler dans tout cela qu'est-ce qui est vraiment la foi de l'Église. Car entre-temps, cette longue querelle insupportable et difficile a abouti, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais abouti à se catapulter avec le totalitarisme du XXe siècle. D'abord le nazisme, et en partie le stalinisme. Et là, à l'évidence, trop c'est trop. Et du coup, ça a obligé, grâce à un dialogue interne entre juifs et chrétiens et catholiques, qui ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni d'avant-hier. Par parenthèse, je signale que le concile de Trente, qui est le grand concile réformateur du 7e siècle pour l'Église catholique, dans son catéchisme, qui est donc un texte qui fait tout à fait foi, dit expressément qu'on est totalement faux et contraire à la foi de dire que c'est le peuple juif comme tel qui est responsable de la mort de Jésus. Et que les raisons théologiques pour le dire, les exégétiques sont très précises, je ne vais pas commencer à exposer cela. Mais l'œuvre de Vatican II a consisté, au fond, à faire une relecture critique de cette accumulation de préjugés, d'idées toutes faites, d'idéologies grossières, pour essayer de tirer les conséquences sur la foi chrétienne elle-même. C'est donc un réexamen, c'est un réexamen de ce que véhiculait la conscience chrétienne à l'égard des juifs, pour vérifier ce qui est cohérent ou non avec la foi catholique. D'ailleurs, les premiers mots du paragraphe de Nostra Aetate, paragraphe 4 qui traite du judaïsme, commence par l'Église, scrutant son propre mystère, découvre quel lien, etc. C'est donc, quand bien même il n'y aurait pas de juifs dans un pays, quand bien même les rapports seraient non pas amicaux, fraternels, mais qu'il y aurait des conflits, que c'est pour quelle raison, ça ne change rien à cette définition qui, pour les chrétiens, telle qu'elle a été formulée, touche à leur propre foi. Il est contraire à la foi chrétienne de traiter les juifs comme ennemis parce qu'ils sont juifs. Mais à l'inverse, de reconnaître ce que Dieu leur a donné de façon irrévocable et la grâce qui a été transmise grâce à eux au peuple chrétien. C'est dans le texte.